On a donc parlé dans une précédente émission de la genèse du code barre, que vous pouvez réécouter sur la page web cpu.pm/189. Et on a vu que le code barre est un support prévu pour y stocker exclusivement des nombres. Mais que peut-on y mettre? Alors, pour rappel, un code barre ne peut stocker que des nombres ayant entre 6 et 32 chiffres. Libre aux utilisateurs de mettre n'importe quel nombre dedans. Le problème récurrent du code barre est qu'on n'a aucune indication de l'index choisi, c'est le contexte et la taille qui vous permet de le deviner. Par exemple, dans les années 1990, programmer un magnétoscope pour enregistrer la télé n'était pas forcément simple pour tout le monde. Oui, Amstrad avait créé une télécommande liseuse de code barre que certains magazines télé publiaient dans leur grille. Pour enregistrer Drucker, et oui déjà, suffisait de scanner le code barre correspondant à son émission. Mais ces télécommandes liseuses n'avaient pas de détrompeur et on pouvait planter le magnétoscope en scannant des codes issus d'un autre contexte. Autre exemple, le SKU. SKU est un terme utilisé comme synonyme de PK, Primary Key, dans certains frameworks logiciels, mais sa signification exacte est explicite. Stock Keeping Unit, référence de stockage. Le SKU est propre à une entité qui ne fait référence qu'à lui-même. C'est un index purement privé qui n'est absolument pas prévu de partager avec une autre entreprise. Ou alors c'est stupide car on a des index universels pour s'éviter les incidents et doublons. Un SKU n'est en général pas public. Et dans une chaîne logistique, il n'est pas rare qu'un produit soit associé à plusieurs SKU entre l'usine de production, les transporteurs, les grossistes et les magasins. Des SKU, il en existe autant que d'entreprises qui ont créé le leur. Inutile de dire que les doublons sont milliards. Donc, pour un index d'usage public, il vaut mieux avoir un organisme qui distribue les droits d'émettre et un index contextuel clairement identifié dans le monde entier. Commençons par le premier d'entre eux. UPC, Universal Product Code. Le standard originel à 10 chiffres, proposé en 1974 par IBM avec ses codes barres, et qui était géré par l'Uniform Product Code Council, UPCC, un groupement d'intérêts unissant les chaînes de supermarchés américains. ISBN, l'International Standard Book Number. C'est un index qui a été créé en 1970, identifiant internationalement une publication de type livre, papier ou numérique en 10 chiffres, dont les blocs sont distribués aux éditeurs par l'Agence internationale de l'ISBN. L'ISSN, International Standard Serial Number. C'est un index qui a été créé en 1976, identifiant internationalement une publication périodique de type journal ou magazine, délivrée par l'ISSN International Center. Initialement, il est composé de 8 chiffres, il fait actuellement 13 chiffres. L'IAN, European Article Numbering, qui est le standard dont on parle dans cette émission, qui varie de 8 à 18 chiffres, mais dont la variante la plus commune est à 13 chiffres, et qu'on appelle désormais le GTIN, GTIN. GTIN, le Global Trade Item Number, c'est la suite du EAN, un standard devenu mondial. Le GTIN, GTIN, regroupe actuellement, entre autres, les index UPC, ISBN, ISSN, EAN et plus si infinité. Il y a même un chapitre pour les produits alimentaires vendus en vrac ou les longueurs de câbles. Le GS1-128. À la différence des formats précédents qui ne font référence qu'à une information unique, le GS1-128 est un container. Donc, il peut porter plusieurs messages dans un unique code barre. Ces informations peuvent être les index traditionnels comme le GTIN13, mais aussi des informations contextuelles telles que la date limite de consommation, le nombre ou la quantité de produits dans le colis, voire le numéro de palette sur le nombre total attendu à l'arrivée. Et là, on arrive aux limites du code barre indé, qu'on étendra dans un prochain épisode.